Bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
Bonjour Frédéric Rivière.
Un hommage solennel a été rendu hier aux Invalides, aux 13 soldats français morts lundi dernier au Mali. La présence militaire française au Sahel doit-elle être mise en débat?
Écoutez, cette présence d'abord répond à la demande des États concernés, sous contrôle de l'ONU. Alors bien sûr, il faut se poser des questions, mais je crois que si on lâchait maintenant les États du Sahel, on se trouverait confronté à une situation bien pire. La question qui se pose aujourd'hui, et je suis membre de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée, et nous avons beaucoup auditionné les uns les autres, c'est de savoir si notre outil militaire est adapté. Si ensuite, les négociations politiques sont adaptées. C'est-à-dire que il faut vaincre sur le terrain les djihadistes, et il faut une solution politique derrière, entre les États de la zone et les différents groupes. Et on en est très loin. Donc, on est dans une situation intermédiaire. Je ne pense pas qu'on puisse reculer, mais il faut être sûr de pouvoir gagner et d'avoir une meilleure collaboration, une meilleure sortie politique de crise.
Quand le président de la République, la semaine dernière, juste après avoir rencontré le secrétaire général de l'OTAN, dit « toutes les options sont sur la table, il va falloir se poser des questions », comment vous comprenez ces propos ?
Je le comprends comme une analyse, pour le coup, assez lucide. Il faut se donner les moyens de vaincre les djihadistes. On ne peut pas laisser le Sahel aux djihadistes. Mais en revanche, est-ce que notre outil militaire est suffisant ? Oui. Est-ce qu'il faut des renforts ? Qui paye ? Est-ce normal que l'Allemagne soit le passager clandestin de l'action militaire payée par le contribuable français et par le sacrifice des soldats français ? En un mot, la France ne peut pas seule, pour le coup, assurer la sécurité de toute l'Europe au Sahel.
Alors justement, le sommet de l'OTAN s'ouvre aujourd'hui. Est-ce que la France doit taper du poing sur la table pour demander un engagement plus important de ses alliés dans la lutte contre le djihadisme au Sahel ?
Bien évidemment, mais la question majeure sur l'OTAN, personne ne le dit ou très peu, c'est que cette organisation est totalement dépassée.
Emmanuel Macron, sur son diagnostic sur la mort cérébrale...
Il a totalement raison, mais alors pourquoi il veut rester dans cette organisation ? Moi, je veux en sortir. Il faut quand même réaliser quelque chose. Pourquoi l'OTAN marchait ? Parce que la menace était perçue claire. C'était l'Union soviétique. À partir de la chute du mur de Berlin, il n'y a plus d'objectif commun au pays de l'OTAN. Il y a une nouvelle menace qui est l'islamisme. Et il y a un pays islamiste, la Turquie, au sein même de l'organisation. Il y a un désaccord fondamental entre les pays de l'Est, Pologne, etc., qui voient encore la Russie comme une menace, et la France, qui lutte au Sahel contre les djihadistes. Bref, il y a le retrait américain psychologique, à défaut d'être financier. Il y a l'inconscience de nos partenaires européens qui ne veulent pas dépenser un centime pour leur défense. Donc, on voit bien que cette organisation est dépassée, on voit bien que le général de Gaulle avait raison de nous faire sortir du commandement militaire intégré.
Mais vous demandez...
Et on voit bien, pardonnez-moi, que j'avais bien raison de m'opposer à Nicolas Sarkozy, qui nous a fait rentrer en 2009.
Revenir dans le commandement intégré.
Mais c'est une folie.
Mais vous, aujourd'hui, vous demandez quoi
sortir du commandement militaire intégré.
Mais pas de l'OTAN.
De rester dans une organisation de concertation. Mais nous devons, la France doit avoir une politique indépendante, se donner les moyens de son indépendance, et, à partir de là, bâtir des coopérations européennes, mais pas dans le cadre de l'OTAN. C'est inconciliable. Et nos amis allemands, si l'on peut dire nos amis dans cette affaire, jouent personnel, n'assurent pas leur effort de défense lié à leur puissance financière et ne jouent pas leur rôle. Donc ils ne le joueront pas tant qu'on sera dans l'OTAN. Et d'ailleurs, dans un sens, le président américain va rendre service à l'Europe parce que en se désengageant financièrement, obligatoirement, les Européens sont obligés de peut-être de prendre en charge leur outil de défense. Car la vraie question est là. La France doit être indépendante et les Européens doivent s'organiser entre eux.
Les syndicats d'agriculteurs sont reçus aujourd'hui par le Premier ministre, un rendez-vous qui a été obtenu la semaine dernière après la manifestation de force en tracteur dans Paris. Ils dénoncent la pression des normes et des réglementations, la grande distribution qui ne joue pas le jeu de la loi alimentation et ce que l'on appelle désormais en bon français l'agribashing, c'est-à-dire une forme de détestation des agriculteurs en raison de leur prétendu manque de respect de l'environnement. Bref, on a l'impression que depuis des années, la situation des agriculteurs se dégrade. Se détériore. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Comment peut-on répondre à ce malaise ?
Il faudrait déjà arrêter la concurrence déloyale des traités de libre-échange, car c'est le vrai problème. J'ai vu que la Commission européenne vient de doubler les autorisations d'importation de bœuf américain bourré de farine animale, sans aucune obligation. Le CETA qui a été signé, qui augmente les importations et la concurrence sur les meilleurs quartiers de bœuf. Le Mercosur qui va être signé.
C'est avec le Canada.
Oui. Donc la vraie question, c'est que d'un côté, on demande des exigences plus fortes sur les productions nationales, environnementales, et de l'autre, on importe des produits qui ne respectent aucune norme, ou très peu. Et donc, obligatoirement, on met nos agriculteurs dans une situation invivable. Donc la vraie question, c'est de rééquilibrer les choses. Moi, je suis pour qu'on maintienne des exigences environnementales. Mais à ce moment-là, il faut bloquer les importations qui ne les respectent pas. Et pourquoi les agriculteurs n'en peuvent plus? C'est qu'ils voient bien le deux poids deux mesures permanent. Le grand discours sur l'environnement et libre-échange intégral qui importe des produits qui ne respectent pas les normes très rigides qu'on applique à nos agriculteurs. Donc, soit on enlève les normes rigides, mais c'est heureusement, je ne le souhaite pas, soit on limite les importations. Le problème de fond, c'est que les États-Unis et les autres pays ont compris que c'était une lutte, une compétition économique, et que l'Europe est naïve.
Nous sommes à 4 jours de la journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Est-ce que vous voyez un... Non, mais je vous en prie, tout le monde est mal fichu en ce moment. Est-ce que vous voyez venir un conflit social majeur, c'est-à-dire au-delà de la seule journée du 5, de la seule journée de jeudi, parce que c'est quand même à sa durée aussi qu'on va juger de la force du mouvement?
La vraie question, pardonnez-moi.
Ouais, non, il faut peut-être que vous retoussiez un peu, parce que manifestement, là, c'est un gros chat, là.
Ouais. La vraie question, c'est la réforme des retraites, qui est profondément injuste, le système à points. C'est pas seulement la réforme des régimes spéciaux. Et le gouvernement, en fait, fait croire qu'il s'attaque aux régimes spéciaux, alors qu'il se sert des régimes spéciaux pour s'attaquer à tous les retraités. Et voilà pourquoi la situation est grave. Et m'inquiète, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement cherche le conflit. Il ne veut pas, en fait, résoudre le conflit. Et la réforme des retraites qu'il prépare est profondément injuste, car on va sortir des 25 meilleures années pour le calcul de la retraite, dans le privé, ou les 6 derniers mois pour les fonctionnaires, pour un système à points sur 43 ans. Ça veut dire que qui, pendant 43 ans, a une carrière longue? Plus personne. Chômage, élever ses enfants, etc. Donc ça veut dire une baisse mécanique des retraites. Et derrière cela, il y a la création du système à points qui est anxiogène et qui aboutira à la démolition de la répartition et à la naissance de la capitalisation, c'est-à-dire des intérêts financiers. Voilà pourquoi je suis radicalement opposé à cette réforme des retraites qui est un piège pour les Français. Et voilà pourquoi d'ailleurs beaucoup de Français vont manifester jeudi, sans être pour autant pour certains abus de régimes spéciaux. Alors, il faut bien comprendre que c'est l'ensemble des retraités qui vont être attaqués par cette réforme. C'est une réforme de démolition de la solidarité.
Et dans ce débat, le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, a provoqué beaucoup de réactions vendredi avec ses propos sur l'immigration. Je le cite, la démographie européenne et son vieillissement fait que si on veut garder le même nombre d'actifs dans la machine économique, il va falloir 50 millions de populations, entre guillemets, étrangères pour équilibrer la population active en 2050 en Europe.
Eh bien, Jean-Paul Delevoye se trompe complètement sur la France. Oui, en Allemagne et en Italie, puisqu'il y a une natalité très basse. Oui, mais moi je parle de la France. Ouais. Et je défends la France. Et en France, on a une jeunesse qui a pas de boulot. Le problème des retraites en France, c'est pas les dépenses, c'est les recettes. On a la natalité, mais on a des millions de chômeurs. Et si on relocalisait ne serait-ce qu'un million d'emplois, mais tous les systèmes de retraite, de sécurité sociale sont équilibrés. Donc on culpabilise les Français sur les déficits, alors même que c'est un problème d'emploi. À chaque fois qu'une usine est délocalisée, ce qu'a compris Trump aux États-Unis dans un sens, à chaque fois qu'une usine est délocalisée, c'est nos retraites qui baissent 10 ans après. Donc la vraie question, c'est pas de plonger les retraités dans la misère, ce que font gouvernement après gouvernement, c'est de reconstituer notre base productive, de relocaliser nos activités, d'investir massivement dans la science, ce que font la Chine et les États-Unis, mais pas l'Europe. Donc on prend le problème complètement à l'envers. Natalité et développement de l'emploi sont la garantie de nos retraites demain.
Merci Nicolas Dupont-Aignan, bonne journée.
Merci à vous et désolé pour le
rhume. C'est presque un concours, j'ai eu beaucoup de mal à me retenir.